Tu vois notre cœur, toute sa noirceur, nos pensées, nos paroles, qui souvent t'en fait horreur. Et donc nous te demandons, Seigneur, que nous soyons convaincus encore ce matin que tu es le Dieu de grâce, et que cela nous pousse à nous repentir et prier pour que toi, tu sois glorifié dans nos vies. Donc aide-nous à mieux comprendre qui nous sommes, pour que nous puissions mieux te louer pour qui toi tu es. Et ça, nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais commencer avec un autre texte que celui que nous venons de lire. On va arriver à Jérémie, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a un lien avec ce texte et un autre texte, Marc chapitre 7, où Jésus est en train d'être accusé d'une certaine manière par des personnes religieuses de son époque, agacées et un peu dégoûtées, eux, à propos du comportement des disciples de Jésus qui, eux, semblaient ne pas vouloir se conformer à des traditions de ces personnes religieuses. Et donc, Marc chapitre 7, les pharisiens et quelques spécialistes de la loi observent de près ce que font les disciples autour de Jésus. Ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Donc, il ne s'agit pas juste de laver les mains, j'espère que vous vous lavez encore les mains avant de manger. Petite faiblesse, je pense, dans la famille Orange, on oublie parfois cela. Il ne s'agit pas forcément de ça, il s'agit d'une certaine rituel qu'il fallait pour que nous soyons purifiés pour pouvoir ensuite se mettre à table. C'est un peu comme si vous tombiez peut-être ici dans ce lieu de culte. C'est pas vraiment un lieu de culte, c'est une salle polyvalente, n'est-ce pas? Mais peut-être vous arrivez et vous trouvez quelqu'un qui est assis dans votre chaise à vous. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas ici une chaise qui appartient à quelqu'un, mais tel est le cas de l'homme que souvent, et je vois que c'est encore le cas, les gens, ils aiment être assis dans leur place habituel. Et imaginons que vous arrivez, il y a quelqu'un qui se trouve dans votre place et vous vous dites, ben, je suis vexé parce qu'il ne respecte pas les traditions. Les traditions, c'est que moi je m'assois là. Alors, c'est un peu cette attitude-là qui est en jeu ici. Ils avaient leur tradition au moment où Jésus entre en scène, et pour eux de ne pas manger sans se laver soigneusement les mains selon ces rituels, c'était une horreur. Et donc le texte dit, le texte de Marc chapitre 7, qu'ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage des coupes, des cruches, des vases de bronze et ainsi de suite. Et donc en voyant quelques disciples de Jésus pas forcément concernés par ces traditions, et donc avec un présupposé assez négatif à l'égard de Jésus lui-même, ces spécialistes posent la question à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ?» Comment Jésus répond ? « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ah, donc, ils sont hypocrites comment? Ils font preuve d'une certaine extérieure bien religieuse, dédiée à Dieu. Ils lavent les mains, ils emploient de belles paroles publiques à propos de Dieu. Mais pourtant, au niveau du cœur, ils sont très loin de Dieu. À un point que Jésus leur dit qu'ils se fichent de ce que Dieu dit vraiment. Marc 7, toujours, versets 7 et 8, il dit, « C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez, il dit, le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. » Et cela tout au nom de Dieu. C'est terrible. Ils sont capables donc d'être farouchement attachés à leur tradition religieuse quelconque, tout en étant en réalité très très loin de Dieu. Jésus donne l'exemple, en fait, de se cacher derrière une tradition, de consacrer de l'argent pour Dieu, afin de ne pas obéir à un vrai commandement de Dieu qui est d'honorer tes parents. Et donc de prendre soin d'eux et de leur donner de l'argent s'il en faut. Ah non, je ne peux pas, parce que c'est consacré à Dieu. Et que dit Jésus à ce sujet? Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Pourquoi ils font ça? Car Jésus continue, il appela la foule et il dit, écoutez-moi, tous et comprenez, il n'y a rien de l'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est Jésus qui parle, hein? C'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, le mal alors, le péché. Toutes les choses mauvaises sortent du dedans, dit Jésus, et rendent l'homme impur. Et cela, c'est dans l'introduction à notre texte du jour en Jérémie. Car Jérémie, peut-être vous l'avez constaté, chapitre 17, parle 4 fois du cœur. Verset 1 de notre texte, le péché gravé sur la tablette de leur cœur. Verset 5, le cœur qui se détourne du Seigneur. Verset 9, le cœur qui est tortueux par-dessous tout. Et verset 10, le Seigneur qui examine le cœur. Le cœur donc de l'homme est le fil conducteur de cette partie de cette prophétie de Jérémie. Elle nous prépare, à nous qui lisons ce texte bien après le ministère et l'œuvre de Jésus-Christ, ce texte nous prépare à l'enseignement du Nouveau Testament à propos de ce qui se trouve dans le cœur de l'homme, y compris le nôtre. Alors, rappelons-nous que Jérémie, il est prophète appelé par Dieu à une époque assez sombre de l'histoire de Juda, le royaume du sud d'Israël. La puissance grandissante de Babylone au nord est en train de se faire ressentir. Et Dieu a annoncé à travers Jérémie que son peuple sera renvoyé de leur terre en exil vers les Babyloniens. Et cela à part les forces babyloniennes. Et cela nous mène donc au premier de nos 3 points que vous voyez sur le plan. Le cœur de votre problème dans les 4 premiers versets. Le cœur de votre problème. Car verset 1, le péché de Juda est écrit avec un stylet de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de leur cœur, comme les cornes de leurs autels. Alors cela m'est arrivé à plusieurs moments d'écrire sur un tableau blanc par inadvertance avec un marqueur pour tableau blanc. Non, pas avec un marqueur de tableau blanc, effectivement, parce que ça c'est facile, n'est-ce pas, à effacer, mais plutôt avec de l'encre permanente, indélible. Vous avez eu cela et quel est l'état de mon cœur? C'est que quand ça m'arrive, je blâme normalement ma femme d'avoir mis le marqueur dans le mauvais tiroir où c'était marqué tableau blanc, etc. C'est embêtant quand ça arrive. Ça prend ensuite plusieurs minutes, même une heure, du vinaigre blanc ou un autre produit magique pour enlever ce qui était indélébile. Mais donc, dans un sens, cette illustration, ça marche pas parce que c'est pas pour finir à tous égards permanent. Mais ici, le péché est tellement enraciné dans ce peuple de Juda, ancré dans le cœur, que c'est comme si c'est gravé dedans, indélébile, indélébile. Voilà, on y arrive. On ne peut pas effacer ce péché. Oh, Juda, le peuple du seul unique Dieu d'Israël, le Dieu vivant est vrai, eux, ils continuent de poursuivre d'autres idoles. Voilà pourquoi Jérémie dit avec ironie que le péché est gravé sur la tablette de la cœur. Au lieu d'avoir les 10 commandements de Dieu, eux, gravés sur les tablettes de pierre. Et il est gravé également sur les cornes de leurs autels. Mais en Judée, il doit avoir un seul autel dans le temple à Jérusalem. Mais le peuple de Dieu a érigé d'autres autels à une diversité de dieux faits à la carte pour ressembler à des nations qui les entourent. Verset 2, on parle. Ils sont partout, sur les collines élevées, dans les montagnes, dans la campagne, fin du verset 3, dans tout ton territoire. Et la conséquence de cette idolâtrie, de leur péché, tous ces endroits, verset 3, je les livre en butin. Aux armées envahissantes qui viendront du nord, de Babylone. Voilà, c'est comme si les armées arrivent, il me semble. Ainsi donc, verset 4, tu lâcheras de toi-même le patrimoine que je t'avais donné et je te rendrai esclave de ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Alors souvenons-nous, Israël, Juda, a été délivré par le Seigneur de leur esclavage en Égypte pour servir le Dieu vivant et vrai dans le pays qu'il leur avait donné. Mais au lieu de faire ça, ils se sont détournés vers d'autres dieux. Conséquence, ils seront renvoyés de cette terre et ils redeviendront esclaves en dehors de la terre promise. Pourquoi? Car fin du verset 4, vous avez allumé le feu de ma colère. Cela évoque encore, avec ironie, je pense, les feux qui brûlaient sur les autels partout en Israël. Mais pour finir, le feu qu'ils ont pu vraiment allumer, c'est celui dont ils doivent faire face, celui de la colère de Dieu qui brûlera pour toujours. Alors voici le cœur de leur problème, leur comportement, leur péché, leur idolâtrie qui provoque la colère de Dieu. Et c'est irréversible. Et le verset 15, un peu plus tard, démontre que Juda continue à ne pas être conscient de ceci. Où est la parole du Seigneur? Il se moque de Jérémie. Qu'elle arrive donc? Il n'y a pas de problème vraiment, Jérémie. Mais le jugement vient. Ne soyons pas dupes à ce sujet. Ça viendra. Nous nous situons historiquement bien après, bien entendu, l'exil du peuple de Juda vers Babylone, suite à l'assiègement de Jérusalem en l'an 587 avant Jésus-Christ. Cet exil a eu lieu, malgré cette attitude confiante de la grande, insouciante de la grande majorité, que Jérémie, lui, il était à côté de la plaque selon ces personnes-là, mais loin de là. Parce que le jugement est tombé. Et de manière semblable, il me semble, lorsque Jésus, à son tour, parle d'un jugement à venir sur l'ensemble de l'humanité, le moment où nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu, c'est très à la mode encore aujourd'hui de banaliser ou de relativiser cela. Allez quand même, vous les évangéliques, vous exagérez un peu, non? Et donc Pierre, dans le Nouveau Testament, dans sa deuxième épître, il nous dit ceci. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Parce que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent, c'est ce que Pierre dit. Et ces personnes pensent encore cela maintenant, n'est-ce pas, en se moquant des chrétiens. Est-ce que vraiment Jésus va revenir? Non, au contraire, dit Pierre, il fait preuve, Dieu, de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà pourquoi il a tardé jusque-là, parce qu'il est patient envers nous. Merci Seigneur, Jésus, par sa mort à la croix, a connu, lui, l'exil à notre place. Il a été renvoyé de la présence de Dieu. Lui, il a expérimenté la colère de Dieu à notre place pour que nous puissions trouver refuge en lui, définitivement. Donc, avoir la paix avec Dieu au lieu de vivre encore aujourd'hui sous la menace d'un exil permanent. Donc, face au problème du jugement de Dieu qui doit définitivement tomber, le chrétien plaide, nous plaidons, je l'espère, encore aujourd'hui, Jésus-Christ. Il nous sauve. Pas de notre misère, pas de notre solitude, pas de notre situation économique précaire, pas de mes insécurités relationnelles, mais il me sauve de mon péché et les conséquences que ce péché entraîne. Car à aucun moment nous devons minimiser l'état du cœur de l'homme. C'est pour cela que nous avons besoin d'un sauveur. Et donc, la deuxième chose que le prophète dit à Judas est celui-ci, deuxième point dans le plan. Le problème de votre cœur, dans les versets 5 à 13. Les versets 5 à 8 dressent un portrait de deux hommes différents. L'homme maudit, verset 5, l'homme béni, verset 8. Ce portrait, qui se trouve ailleurs aussi dans la Bible, souligne à quel point les deux hommes s'opposent, l'homme maudit, l'homme béni. On peut poser la question, en qui vous confiez-vous? Le premier, l'homme maudit, met sa confiance dans l'homme. Le deuxième, l'homme béni, met sa confiance dans le Seigneur. Le premier prend la chair, la nature humaine, pour appui, qui fait que des moyens humains sont la source de sa force. Le deuxième, l'homme béni, a le Seigneur comme son assurance. Avec quel résultat? Le premier est comme un buisson dans le désert, comme un genévrier, dans certaines traditions, dans la plaine aride, qui ne voit pas le bonheur, mais se trouve dans les lieux brûlés du désert, sur une terre salée et sans habitants. Donc, quel est le sort d'un tel homme? Il est assoiffé, stérile et terriblement seul. Et le deuxième homme, le résultat pour lui, comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le cours d'eau, et donc il n'est pas affecté par la chaleur. Il reste cet arbre verdoyant, même lorsqu'il y a de la sécheresse. Il est sans inquiétude, il ne cesse de porter du fruit. Donc si le premier est assoiffé, stérile et seul, celui-ci, le deuxième, il est apaisé, épanoui, serein. Et on peut se poser la question, pourquoi ne pas vouloir être comme le premier? Le portrait que Jérémie nous donne fait exprès pour qu'on dise ici qui serait aussi stupide, aussi fou de suivre l'exemple du premier. Mais qui serait aussi stupide? L'homme. L'homme avec H majuscule, bien entendu. Car, et voici l'un des versets que je cite peut-être le plus souvent dans mon ministère, ici à l'église de Woluwe, que ce soit à des croyants ou à des non-croyants, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessous tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Le cœur, nous devons le dire, n'est pas simplement donc le centre de nos émotions, comme si on met un petit émoji quand on est ému par quelque chose, mais plutôt, dans la pensée biblique, le centre de tout notre être, tout ce que nous sommes. Le synonyme dans le verset 10 pour le cœur, ce sont les reins, les entrailles, le centre de nos désirs, oui, mais alors aussi de nos décisions. ce qui nous pousse à faire ce que nous décidons de faire. Et ce que Dieu dit, c'est que le cœur de l'homme est tortueux. Et le mot pour tortueux ressemble fort au prénom de Jacob. Et ça, ça marche bien si vous connaissez l'histoire de Jacob, parce que c'est bien Jacob qui a manipulé les affaires familiales pour que son frère Ésaü soit trompé. Le cœur est capable d'agir ainsi, tordu, tortueux, à un point qu'il est incurable. On fait preuve donc d'une maladie chronique, pas simplement blessée, où nous pouvons nous remettre. Non, incurable. Les théologiens parlent ici de ce qu'ils appellent la doctrine de la dépravation totale. Cela, que nous soyons clairs, ne signifie pas que l'homme est donc incapable de faire quoi que ce soit du bien. Non, il est, et il le fait. Par la grâce commune de Dieu, il fait parfois le bien. Merci Seigneur pour cela. Mais cela parle plutôt de l'étendue du péché sur l'ensemble de ce que nous sommes en tant qu'hommes, que nous avons tous une capacité sans limite de pouvoir faire à tout moment le mal. Car je ne suis pas neutre en moi-même, dans mon cœur, vulnérable donc au péché lorsqu'il y a quelques facteurs externes qui provoquent une mauvaise réaction en moi. Non, je ne suis pas neutre. J'ai une orientation, une disposition de cœur de l'ensemble de mon être vers le mal. Et inutile de dire que ce n'est pas ma faute cela, car justement, ça vient du cœur, de ce que je suis. C'est bel et bien ma faute. Je suis toujours frappé par notre façon en tant qu'homme de nous excuser lorsque nous essayons de rendre plus compréhensible notre faute à nous. D'abord, simplement par les différentes expressions que nous pouvons parfois employer. Donc, imaginons que je boude, alors je vais demander à ma famille si c'est le cas, que je boude devant la télé lorsque je laisse d'autres personnes de la famille pendant un temps travailler, faire la vaisselle, faire le ménage, etc. C'est injuste ce que je fais. Ou imaginons que je crie sur quelqu'un de façon non justifiée, car la personne m'a irrité à un moment donné. Et lorsque dans ces deux cas-là, j'essaie de m'expliquer, qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Oh, désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris là. Rien t'a pris, mon grand, car ça venait de toi, de ton cœur tortueux. L'autre façon de parler, lorsque je suis égoïste ou j'écris un mot qui blesse de manière hâtive et je vois que peut-être j'ai exagéré un peu, c'est de dire « Oh, chérie !» ou « Monsieur ou Madame !»« Oh, désolé, mais j'étais fort fatigué et je n'avais pas bien dormi cette nuit. » Ok, la fatigue explique les circonstances autour de ton action, aide peut-être à comprendre pourquoi tu es susceptible au péché, mais tu agis ainsi, pas parce que tu es fatigué, mais parce que ton cœur est tortueux. Ton cœur, mauvais, saisit l'opportunité que la fatigue présente pour blesser, pour être égoïste. Car on revient ici sur Jésus, en Marc chapitre 7, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Alors toute la liste, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Vous voyez donc impur ou incurable. L'état de notre cœur est tel que nous devons nous méfier alors, chers amis, de notre analyse de nous-mêmes. Tout comme Judas devons se méfier de leur analyse, de eux-mêmes. Nous sommes capables de faire croire non seulement aux autres, mais également à nous-mêmes qu'il n'y a rien de mal globalement dans ce que nous faisons. À un point où nous pouvons même approuver avec fierté des actions qui déshonorent Dieu, et qui blesse mon prochain. C'est là le problème de Judas, qui se croit encore sur la bonne voie, qui ne voit pas de problème de leur désobéissance du moment. Ils ont un cœur qui se détourne du Seigneur. Mais où est le problème avec ça? Verset 11, il est comme une perdrix qui couvre ce qu'elle n'a pas pendu. Et pendant un temps, ça marche. Tu vois où est le mal dans ce que je fais? Je réussis en quelque sorte. Mais l'homme, il n'est pas bien positionné pour juger son propre cœur, ses propres motivations. Verset 10, c'est le Seigneur qui examine le cœur, qui sonde les reins, qui donnera chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Alors, celui qui acquiert, verset 11, des richesses injustement, n'a pas pour finir fait le bon calcul, même si pendant un temps, ça a l'air de bien marcher. Bien que pendant un moment, il soit riche, car au milieu de ses jours, nous dit le texte, il doit les quitter, ses richesses, et son avenir est celui d'un fou. Car ce n'est que là où le Seigneur siège, son trône glorieux, qu'il y a dans ce texte de l'espoir. Car il est, nous dit le texte, l'espérance d'Israël. Et donc, lui, abandonné, égale la honte pour son peuple. Car contrairement au péché qui est gravé sur le cœur, ceux qui s'écartent de Dieu seront inscrits, rien que verset 13, dans la terre ou une autre tradition, dans la poussière. Donc c'est-à-dire c'est facilement effacé ou quand il y a de la pluie, on ne verra pas ce qui est inscrit dans la terre. C'est comme là, avec un tableau blanc, on peut facilement l'effacer. Aucun avenir, pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la source d'eau vive. Le Seigneur. Donc voilà la réalité sobre sur ceux qui pensent que leur propre analyse d'eux-mêmes est juste. Et Bruxelles en 2026, chers amis, nous sommes encore entourés par de telles personnes. Je suis même persuadé qu'il y en a encore parmi nous ce matin. Toi, tu te définis ce que tu veux être. C'est ça le discours qu'on entend aujourd'hui. Tu dois être fier de qui tu es. Fais ce que toi tu décides de faire dans ton cœur. Si tu ne ressens pas la chose, cherche autre chose. Cherche une autre église. Car l'essentiel, c'est que toi tu sois confortable. Voilà, chers amis, l'image d'un homme qui met sa confiance, verset 5, dans l'homme. Qui termine ses jours? Comment alors une telle personne? Assoiffé, stérile et seul, au lieu d'être apaisé, épanoui et serein. Donc, chers amis, pas trop vite à suivre donc ton propre cœur. Le fait que c'est le Seigneur qui examine le cœur, qui donne à chacun selon ses voies, nous renvoie en fait vers la fin de la Bible, le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22. Jésus dit ceci, « Voici, je viens bientôt, verset 12, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, verset 14, Apocalypse 22, ceux qui lavent leur robe. » Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. C'est une magnifique image ici à la fin de comment quelqu'un soit transformé d'une maladie incurable vers une vie abondante à côté de l'arbre de vie. Comment? Car ils ont lavé leur robe. Ce qui était incurable, ils ont trouvé la solution. Comment? Le dernier verset du chapitre 21 d'Apocalypse. Il n'entrera rien chez elle dans la nouvelle création. Rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, avoir leur nom inscrit dans son livre, cela signifie que leurs robes ont été lavées par le sang de l'agneau. Dieu lave ceux qui viennent à lui. dans l'humilité et par la foi dans l'œuvre de son Fils, l'agneau Jésus-Christ sacrifié, qui est ensuite, il est revenu à la vie et il peut nous donner cette vie. Et donc la solution pour notre cœur tortueux ne se trouve pas en nous-mêmes, chers amis, mais en celui qui nous délivre de notre folie. Mais d'ici le jugement final, l'arrivée donc de la Jérusalem céleste qu'on voit dans Apocalypse, le chrétien ne doit pas penser naïvement « Ah, mais j'ai eu mon cœur lavé et donc je ne lutte plus du tout avec un cœur tortueux. » Bien que nous ayons pu bénéficier de la promesse que Jérémie annonce plus tard, on arrivera à ça dans notre série au chapitre 31 où Dieu dit, en parlant de cette nouvelle alliance, qu'il mettra sa loi au-dedans d'eux. Il l'écrira sur notre cœur. Cette magnifique promesse est vraie pour les enfants de Dieu par la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais nous devons toujours comprendre que bien que notre cœur ne soit plus endurci, insensible à la voix de Dieu, et bien que nous soyons ceux qui mettent aujourd'hui notre confiance dans le Seigneur, nous restons toutefois susceptibles d'ici le retour de Jésus-Christ d'oublier notre identité en Christ et d'être pris en piège par notre ancienne nature, par un cœur qui peut encore faire preuve de motivation mixte. Alain nous a lu au début de notre temps ensemble, Éphésiens chapitre 4, quelques versets de là. Et partout dans le Nouveau Testament, Éphésiens 4 notamment, nous sommes exhortés encore aujourd'hui en tant que chrétiens à nous débarrasser du vieil homme et à nous revêtir de l'homme nouveau. Et voilà pourquoi Paul doit toujours dire aux chrétiens, parce que ça ne coule pas des sources, que fin d'Éphésiens chapitre 4, verset 31, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Cela ne vient pas naturellement, chers amis. Nous devons encore travailler à cela. Se battre contre un cœur qui peut encore manifester ce côté tortueux. J'ai essayé d'y réfléchir cette semaine et j'ai trouvé quelques pistes d'application encore pour nous, croyons, différentes façons par lesquelles cette tendance tortueuse peut encore se manifester. Et tous ces différents domaines que je vais maintenant vous citer, j'ai pensé à des exemples concrets, rien que cette semaine, de tous ces différents exemples, que ça soit chez les autres, peut-être chez quelqu'un ici présent, je ne vais pas vous nommer, ne vous inquiétez pas, peut-être juste chez moi, dans mon propre cas, ou pas d'autres connaissances que j'ai. Je pense que j'ai 6 choses à dire. Première, nous contemplons la gloire de Dieu en Christ, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, nous contemplons des choses illicites sur un écran, où nous convoitisons avec nos yeux ce que quelqu'un d'autre possède ou a. Deuxième, nous louons le Seigneur avec nos lèvres le dimanche, et puis avec ces mêmes lèvres, nous maudissons quelqu'un créé à l'image de Dieu le lundi matin. Troisième, nous sommes profondément touchés par la grâce de Dieu en Christ qui me sauve. Et puis, nous ne voyons rien d'incohérent de ne pas vouloir faire grâce à quelqu'un d'autre qui a échoué en ce qui concerne une responsabilité qu'il devait exercer envers moi. Quatrièmement, nous sommes émus par la patience et la fidélité de Dieu à l'égard de nous, de moi. Et puis, quelqu'un ne répond pas tout de suite à un message que j'écris et je suis fâché et je reproche cette personne ou je suis immédiatement vexé par un geste anodin ou même bien intentionné de la part de quelqu'un d'autre envers moi. Nous parlons même de la part de Dieu. Et ensuite, nous cherchons à ce que les autres parlent de moi. Et nous faisons partie du corps du Christ, chacun avec ses dons, dans sa diversité glorieuse. Et au lieu de se réjouir de notre diversité, nous convoitisons ce que les autres y ont. Et nous sommes grincheux parce que d'autres sont remerciés et nous ne le sommes pas. Oui, les amis, attention d'avoir, en tant que chrétiens, un trop haut regard de nous-mêmes. Que notre confiance ne se place pas dans les hommes, même les meilleurs des hommes, car nous avons tous du progrès à faire. Soyons réalistes également, chers amis, même au sein de notre Église, bien que nous ne devons pas excuser le péché, et le péché des autres peut à juste titre nous décourager, que cela ne soit jamais une surprise totale, que les uns et les autres échouent, car le cœur est tortueux par-dessus de tout. Donc ça fait déjà deux points sur le plan. Le troisième doit être beaucoup plus court. On va voir si on y arrive. C'est dans ce contexte que Jérémie exerce son ministère. Et cela nous pousse juste à réfléchir brièvement sur la problématique du ministère auprès de vous, auprès du peuple de Juda, mais alors aussi à notre époque, les uns envers les autres. Car le ministère authentique envers un tel peuple est très loin d'être évident. Lui, donc, il met sa confiance dans le Seigneur. Verset 14, « Guéris-moi, Seigneur, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Car ma louange, c'est toi. » Donc, si lui, il plaçait sa confiance dans le peuple de Juda, il ne serait pas un bon guide, car Juda voulait juste qu'il voulait entendre. Ce serait comme une classe à l'école menée par des élèves plutôt que d'être menée par un prof. Des élèves qui ont juste envie de recevoir l'instruction que eux, ils estiment en avoir besoin. Donc Jérémie, verset 16, il n'a pas refusé d'être un berger qui suit son maître, le Seigneur, mais il confesse qu'il n'a pas désiré ce jour de douleur, d'être considéré comme un fou, un rabat-joie. Ce n'était pas évident pour Jérémie et ce n'est pas évident encore aujourd'hui pour un disciple de Christ, un ministre de Christ. Et nous le sommes tous si nous sommes en Christ, d'exercer ce ministère, de faire des disciples. Ce n'est pas évident d'être mis de côté car ce que nous disons ne correspond pas à ce que nos proches ont envie d'entendre. C'est pour ça, à la fin de ce culte, vous voyez dans le petit livret que nous chantons ce cantique « Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ ». Pourquoi nous chantons cela? Deuxième strophe. « Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. » C'est pas évident d'aller en contre-courant de ce que les autres pensent. Mais Jérémie devait le faire, nous devons le faire. Et donc, il puise son assurance dans le Seigneur. Il crie vers Dieu, verset 17, « Ne sois pas pour moi une terreur, toi mon abri au jour du malheur. » Et donc, il vise le long terme, pas le court terme, tout comme l'homme béni du verset 7, au lieu de l'homme maudit du verset 5. Il ne pense pas à l'homme tel qu'il peut apparaître lorsque sa confiance en l'homme, en lui-même, a l'air de marcher. Non, il sait que la fin ne sera pas comme ça. Et donc, il hâte le moment où ce jour viendra, où Dieu réglera les comptes. Verset 18, c'est fort que mes persécuteurs aient honte, mais que moi, je n'ai pas honte. Qu'ils soient terrifiés, mais que moi, je ne sois pas terrifié. Fais venir sur eux le jour du malheur. Frappé d'un double désastre. Mais qu'est-ce que nous avons, si cela nous rend un peu mal à l'aise à la fin, qu'est-ce que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse? À la fin d'Apocalypse, chapitre 21, verset 27, on l'a déjà lu. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et donc c'est pour cela que la Bible termine avec son Église qui crie « Viens, Seigneur Jésus, viens, nous désirons ce monde où les torts seront corrigés définitivement par Dieu. » Et donc nous visons un ministère à la lumière de ce jour-là, au lieu d'évaluer notre ministère à la lumière des critères que nous entendons aujourd'hui dans notre société. Et avec ça, chers amis, je vous invite à la prière. Seigneur, aide-nous de encore peut-être réfléchir sur le contenu de ce que Jérémie expose ici, de comprendre à quel point le cœur est tortueux par-dessous tout, mais de comprendre aussi ta grâce, que celui qui examine le cœur, qui sonde les reins, qui donne à chacun selon ses voies, a payé le prix pour que nous puissions connaître la paix avec toi. Et donc, donne-nous d'œuvrer en tant que disciples de Jésus-Christ, à la lumière de ces grandes réalités, la connaissance que ce jour viendra où nous serons à tes côtés, et cela en paix pour toujours. Donc, sois avec nous, donne-nous de chercher le pardon là où cela est approprié. Que ton nom soit glorifié et pas le nôtre. Nous t'en prions. Amen.